On peut déjà être reconnaissant ce matin pour la communion qu'on peut vivre dans la paix avec les frères et sœurs. On peut aussi être dans la joie parce qu'on a pu chanter de merveilleux cantiques à la gloire de Dieu, notre Dieu trois fois saint, et l'œuvre parfaite accomplie par Jésus à la croix de Golgotha. C'est une grâce de pouvoir vivre ce matin le culte. Et moi, j'aimerais qu'on puisse continuer ensemble notre périple ou notre voyage dans l'Évangile de Marc. Très beau chapitre dense de l'Évangile de Marc au chapitre 14. Et on y verra ensemble les derniers moments paisibles de la vie de Jésus avant la Passion. Et Jésus a choisi de vivre ces moments, ces derniers instants, j'allais dire, pratiquement entouré des siens, de ses amis, de ses frères et sœurs, de ses disciples. Deux moments symboliques sont relatés dans l'Évangile de Marc que j'ai choisi ce matin, l'onction de Jésus, l'onction de cette femme. Et puis un moment solennel pour nous, chrétiens, l'institution de la scène que le Seigneur nous a laissée, nous demande de répéter aussi souvent que possible en souvenir de lui. Deux moments qui se passent autour d'une table. Ça, les Français, on aime bien être autour d'une table. Hier soir, on a profité aussi des joies de la table dans cette rencontre entre frères. Deux moments qui se passent autour d'une table. Ces deux moments ont la particularité d'être centrés sur le corps de Jésus parce que il va être oint et puis Jésus se prépare à donner sa vie pour nous. Mais le but de ce que nous relate Marc dans ce chapitre, c'est de répondre à deux questions qui nous suivent depuis le premier chapitre de la lecture de cet évangile. C'est qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est-il pour toi? Quelle est son identité? Et on va le voir ensemble. Alors, on le sait déjà, mais faisons comme si. Quel est le but de son incarnation? Alors, on va lire ensemble sans plus tarder Marc, à partir du verset premier, et je vais lire les 26 versets de ce chapitre. Il y en a plus, mais je m'arrêterai là. La fête de Pâques et des pains sans levain devaient avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Car ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre 300 deniers, le donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on parlera aussi en mémoire de cette femme, de ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. » Et là où il entrera, dit au maître de la maison, le maître dit, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les 12. Et pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « L'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. » Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et leur en burent tous. Et il leur dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. Et après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Voilà notre lecture. Premier événement qu'on va regarder ensemble, ça se situe chez Simon le lépreux. Voici quelqu'un qui a su accueillir Jésus comme il se doit. Tiens, petite réflexion avant de rentrer dans le vif du sujet. Quel accueil faisons-nous à Jésus lors de nos repas, de nos fêtes de famille? A-t-il toujours la place d'honneur, comme chez Simon le lépreux? Est-il l'hôte principal de nos maisons, de nos cœurs? Il l'est de notre Église. On le sait. Voilà, je referme la parenthèse. Il y a autour de la table pas mal de monde. Tiens, on apprend qu'il y a Lazare, en tout cas c'est l'évangile de Jean qui nous le dit. Lazare, le ressuscité, est présent. Et évidemment, sa sœur Marthe, que fait-elle? Elle travaille, comme toujours. Elle sert les convives. C'est aussi un beau témoignage. Mais cette femme qui répand le parfum aux pieds de Jésus, on apprend que c'est sa sœur, Marie. Elle pénètre dans la pièce. Enfin, hier, on était en train de manger. Imaginez quelqu'un qui rentre, paf, brise un vase, un beau vase d'albâtre d'un grand prix, et le répand sur la tête de Jésus. Et puisque le vase devait être pas mal plein, ça se répand sur tout son corps. Un parfum pur de grand prix. Peut-être l'économie de toute une vie, peut-être une vie de labeur. Comme ça, paf, répandu à ses pieds, sur sa tête. Et elle a donné à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux. Rien que d'entendre ça, déjà, ça doit parler à nos cœurs. Elle a donné à Jésus ce qu'elle avait de plus précieux. Elle ne voulait rien conserver pour elle-même, mais tout consacrer à son Sauveur et à son Seigneur. Merveilleux, n'est-ce pas? Quelle leçon d'altruisme, quel contraste aussi avec Judas, tellement choqué par cette scène qui part et trouve le moyen de livrer Jésus. On passe de l'ombre à la lumière, du bien au mal. Terrible. Quelques pièces d'argent, il va livrer Jésus, quelle infamie. La Bible nous dit aussi, là où est ton trésor, là est ton cœur. Alors, le trésor de Marie, c'est simple, c'était Jésus, c'est une évidence. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Wow. Les amis, ma prière pour vous et pour nous, c'est que nos maisons soient sans cesse remplies du parfum de la présence de Christ, de cette bonne odeur. Que Jésus soit notre plus grand bien, qu'il soit notre trésor. Marie était consciente de la valeur de son don, elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle était déterminée. Mais Jésus a bien plus de valeur que tous les parfums du monde. Par ce geste, elle voulait exprimer sans parole les sentiments de son cœur. En fait, mes amis, pas besoin de parole. Ce qu'elle a fait, son acte était bien plus éloquent que tous les beaux discours qu'on pourrait offrir. Son cœur était totalement rempli d'adoration. Son geste témoignait de sa consécration. C'était gratuit. C'était une offrande. Son art répandu en était l'expression la plus pure. Mais la réaction ne se fait pas attendre. N'importe quoi. Vous avez déjà entendu ça? N'importe quoi. Mais pourquoi perdre ce parfum? Qu'est-ce qu'elle fait? Pas de sens. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers, le donner aux pauvres. 300 deniers, vous le savez bien, c'est à peu près une année de salaire. Alors je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un dans cette salle où, au hasard, peut-être gagnerait-il 3000 euros par mois. C'est une belle somme, hein? Je sais que certains gagnent moins, certainement plus, mais peu importe, j'ai fait un 3000 euros. 3000 euros, c'est à peu près 30 000 et quelques, hein, on n'est plus à quelques centimes près, par an. On pourrait le donner à la Roumanie, quoi, pour les enfants d'Ukraine. Ça ferait à peu près 3 ans de dons pour les enfants d'Ukraine. Et puis j'ai une sœur à Madagascar qui a aussi besoin de sous, et puis la porte ouverte, et puis le sel, etc. Pourquoi rompre ce parfum? On aurait pu le donner aux pauvres. On sait, il y a mille et une façons de... De vrai, Jésus dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Et Jésus prend la défense de cette femme. Il prend la défense de nous chrétiens quand on agit pour lui. Laissez-la, pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action. Waouh! Ça fait plaisir quand Jésus dit à ton cœur, t'as fait une bonne action pour moi. Son attitude de cœur fut agréée par Jésus. Ce sacrifice de bonne odeur était considéré, on l'a vu, par plusieurs comme une perte. C'est la nature humaine qui taxe de folie ceux qui renoncent à quelque chose pour Christ. Ce qui est jugé aux yeux du monde comme du gaspillage est précieux aux yeux de Jésus. Un jour, j'ai cru avoir la bonne idée, quelque part en Espagne, de dire à un membre lointain de ma famille, « Mes enfants, ils sont Togo. » Peut-être plutôt Bénin. Ils sont Bénin, ils font du bien, mais qu'est-ce qu'ils sont allés... Le verbe, je ne le dis pas, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas chez ces... Qui se débrouillent eux-mêmes? Ah, j'étais abasourdi. Le monde ne comprend pas toujours hein, nos actions, nos motivations. Deux réflexions me sont venues au sujet du verset 8 qui dit « Elle a fait ce qu'elle a pu ». Hier, on s'est posé la question, c'est quoi être disciple? Êtes-vous satisfait de votre vie de disciple? Bon, d'une manière unanime, on l'a dit, on n'est jamais à la hauteur. Hein. On aimerait faire mieux, davantage. Mais moi, j'aimerais nous encourager à persévérer dans ce que nous faisons pour Jésus-Christ. Ou alors à vous mettre en route pour lui. Faites ce que vous pouvez, le Seigneur vous appréciera. Ce qui nous semble anodin ou insignifiant dans notre service pour Dieu ne l'est jamais pour le Seigneur. Un verre d'eau donné, Christ en rend compte. Pour notre Sauveur, je pense que vous l'avez bien compris, c'est pas la valeur du don qui compte, mais c'est l'intention du cœur. Ça vient de là, quoi. Qu'est-ce qui motive mon action? Rappelez-vous de cette dame, cette vieille veuve qui arrive au temple, elle donne 2 pièces, genre 2 centimes. Jésus a dit, mais elle a donné de son nécessaire, de tout son cœur, elle est repartie, justifiée. Ce n'est pas la valeur du don, c'est la valeur du cœur, j'allais dire. Et puis la deuxième réflexion, c'est que il n'y avait qu'un moment dans toute l'histoire de l'humanité où le corps de Jésus pouvait être embaumé en vue de sa sépulture. Ce moment est arrivé et cette femme a compris que Jésus il allait mourir. Alors son geste est prophétique, a-t-elle totalement compris? C'est pas moi qui... En tout cas, peut-être elle a suffisamment de discernement pour se dire « Je vais offrir ce parfum en vue de sa mort. » Parce que c'était une femme qui, rappelez-vous, Marthe et Marie et Lazare, hein, cet épisode dans l'évangile de Luc, elle était longtemps au pied de Jésus, à l'écoute de sa parole. Elle comprenait ce que Jésus lui disait. Elle comprenait à ce moment-là qu'il allait mourir. C'est maintenant ou jamais qu'il fallait agir. Et les femmes qui envisageaient d'embaumer le corps de Jésus après son ensevelissement, ouais, difficile à dire, ben elles n'ont pas compté sur sa résurrection, quoi. Ça avait trop tard. C'est bien ce qu'elle a fait. Et puis Jésus dit, cet événement remarquable, enfin c'est moi qui le dis, se trouve dans le canon biblique. À quoi ça sert de relater qu'une personne, une sœur en Christ, a mis du parfum sur la tête de Jésus? Pourquoi faire mémoire 2000 ans après de cette affaire? Il n'y a pas longtemps, on a fêté le 6 juin 44, on a fait mémoire en disant, ils ont fait ça pour vous, en slogan, ils ont fait ça pour toi. Pourquoi faire mémoire? Moi, je crois que c'est un exemple de dévotion qui suscite en nous des occasions d'aimer Christ, de l'imiter dans sa manière de faire, d'adorer Christ en retour. Et puis, une petite citation d'un certain McDonald que j'aime beaucoup, qui dit « Chaque acte d'adoration véritable, rempli de parfum, les parvis célestes et s'inscrit d'une manière indélébile dans la mémoire du Seigneur. » Allez, je vous la redis parce que j'aime bien. « Chaque acte d'adoration véritable, rempli de parfum les parvis célestes et s'inscrit d'une manière indélébile dans la mémoire du Seigneur. » Et puis deuxième réflexion concernant pourquoi faire mémoire. Et là on arrive un peu au cœur de l'identité de Jésus. Cet acte d'adoration répond à notre première question. Qui est Jésus? Nous on le sait, Jésus c'est bien le roi des Juifs. Pas encore clair pour tout le monde. La foule l'avait scandé dans son entrée à Jérusalem, mais les Juifs et les responsables, eux, l'avaient rejeté totalement, repoussé du temple. Marie avait elle aussi, elle avait discerné sa valeur et sa nature royale. Il est le Fils de Dieu. Mais pour être officialisé roi en Israël, dans l'Ancien Testament, il fallait accomplir un acte symbolique particulier, comme Samuel qui a oint le roi David, il fallait lui loindre la tête du prétendant. Et donc Jésus l'a laissé faire, il était le seul à comprendre son geste et à approuver ce qu'elle faisait. Symboliquement, elle est en train de dire, voilà le roi des Juifs, je l'oins comme roi. C'est étonnant que c'est une femme qui oint, normalement c'est un sacrificateur, un prophète. Jésus l'a laissé faire. Et quand il fut mené devant Caïphe et Pilate dans son jugement, il n'a pas lié quand il a dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Je suis le roi des Juifs. Il était réellement le roi des Juifs, il venait de recevoir l'onction. On peut répondre à notre première question. On a vu dans ces 11 versets l'exemple remarquable de Marie, dans sa dévotion inconditionnelle, pourvu qu'on ait ce cœur, ce désir de l'imiter dans notre dévotion, dans notre adoration, dans notre piété. Et puis on a pu voir aussi qu'autour de cette table, au milieu des convives, l'identité de Jésus nous a été révélée davantage encore. Par cette onction, Marc, à ce moment-là de son récit, officialise et confirme sa royauté. Il incarnait sans l'ombre d'un doute, loin de l'Éternel, le Messie, le Sauveur, celui que présentaient les Écritures dans l'Ancien Testament. Maintenant, deuxième événement symbolique, du verset 12 à 31, on l'a lu, hein, la scène, ça se passe autour d'un repas. Jésus allait donner un sens nouveau à cette fête. Ce n'est plus le rappel de la libération de l'esclavage de l'Égypte qui était fondamental. Et au lieu d'attirer l'attention sur l'agneau pascal, Jésus parle de son corps et de son sang. Et puis, pour symboliser le corps et son sang qui allait être répandu pour la rémission des péchés, eh bien, le pain et la coupe devenaient des symboles fondamentaux. Et finalement, c'est universel. Tout le monde peut comprendre facilement. Tout le monde partage du pain et une boisson. L'institution de la scène, c'est un moment solennel dans l'histoire, dans notre histoire. Jésus allait sceller la nouvelle alliance qui annonçait sa mort expiatoire à la Pâque sur la croix. Le roi des Juifs devait offrir son corps en sacrifice pour le pardon des péchés, rendu possible par son corps répandu. La mission de Jésus, l'agneau de Dieu, eh bien, allait atteindre son apogée sur le mont Golgotha. On voit aussi là dans ce texte que Jésus maîtrise totalement la situation. Il est souverain dans tous les aspects de sa vie, même jusqu'à la mort et à la mort qui devait se passer à la Pâque. Et pas à un autre moment, puisqu'il est l'agneau de Dieu. Alors par ce deuxième événement qu'on a très rapidement survolé, mais on connaît le sens de la scène, eh bien par ce deuxième acte symbolique, Jésus avec les siens, répond à notre deuxième question d'introduction. Quel était le but suprême de l'incarnation de Jésus? Venir sur terre pour ôter les péchés. Selon ce que prévoyaient les prophètes de l'Ancien Testament. Alors je continue un peu la scène, pour nous elle anticipe également les retrouvailles dans le royaume divin. Jésus nous le dit, hein. Pour tous ceux qui ont leur foi en Christ, en vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu, verset 25. Voilà ce qui nous attend, prendre la scène avec Jésus, prendre le repas avec lui dans le royaume de Dieu. Et la scène, c'est aussi ça, c'est sa mort, mais c'est aussi une perspective présente et future. Et puis verset 28 que j'aime beaucoup, que je n'ai pas lu, hein. Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Prendre la scène pour nos chrétiens, c'est aussi proclamer à la face de ce monde visible et invisible que Jésus-Christ est Sauveur, le Seigneur, qu'il a tout accompli une fois pour toutes, à la croix, mais qu'il est le ressuscité. Jésus, ce n'est pas celui qui meurt seulement, mais c'est celui qui ressuscite. C'est ce qu'on proclame aussi par la scène. Alors quoi de plus normal que de dire « Merci Seigneur, tu n'as pas hésité à quitter la gloire de Dieu pour t'incarner, vivre dans la souffrance et la douleur, donner ta vie pour nous sauver de la condamnation éternelle qui pesait sur chacun d'entre nous. Merci Jésus d'avoir consenti au plus grand des sacrifices pour nous qui ne méritons rien. Et c'est pour cela qu'il est digne de recevoir notre adoration parce qu'il a démontré que nos vies avaient plus de valeur que sa propre vie. Nos vies avaient plus de valeur que la gloire dont il était dépositaire dans les cieux, il était dans la gloire. Comment ne pas être ému et être reconnaissant? La valeur de nos vies était plus importante que sa propre vie. Alors, en résumé, ce matin, on a vu que la dévotion inconditionnelle de Marie pour son Seigneur, qui a répandu un parfum coûteux sur la tête de Jésus. On a pu voir ce geste d'amour, de piété, d'adoration inconditionnelle. On a pu aussi constater la détermination de Jésus à vouloir accomplir sa mission pour notre salut. On le voit lors de la Sainte Cène. J'irai jusqu'au bout. Et puis on a pu répondre à notre deux questions essentielles. Jésus est vraiment le roi des Juifs et il est celui qui est venu s'incarner dans le but suprême de nous affranchir du péché, de nous délivrer de la colère à venir, parce que son corps a été meurtri, son sang a été répandu, son sacrifice a été agréé par Dieu une fois pour toutes. Alors quelques réflexions. C'est pas encore fini. On a vu que Marie a donné ce qu'elle avait de plus précieux à Jésus. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Et nous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Que suis-je prêt à offrir pour Jésus par amour? Suis-je toujours prompt à témoigner de mon adoration, même si, comme dans le texte, certains manifestent de l'indignation, de l'irritation, et pourquoi pas de la persécution? Suis-je prêt à porter ma croix pour Jésus-Christ? À porter l'opprobre de Jésus. Et puis, nous pouvons apprendre à travers ce récit de ne jamais trop critiquer les initiatives des frères et sœurs, ne jamais trop critiquer les expressions d'amour que font les chrétiens, même si on ne comprend pas. Mes amis, puissions-nous faire de Christ les délices de notre âme? En tant que disciples, on pourrait laisser de côté nos intérêts, ne pas nous soucier de notre chair pour en satisfaire ses désirs. On pourrait rechercher de tout notre cœur dans la prière à agir intentionnellement pour Dieu, par amour et pour sa gloire. Qu'on puisse s'engager à honorer et adorer Jésus en dépit de l'incompréhension ambiante. Puissions-nous, et c'est mon encouragement aussi, qu'on puisse persévérer ensemble à vivre dans la proximité de Jésus avec piété et dévouement. Qu'il soit au cœur de notre vie, de nos maisons, de notre adoration, de notre proclamation, l'objet de toute notre affection. Jésus est à mes yeux plus précieux que l'or et l'argent. Alors quoi de plus normal que d'imiter notre Sauveur, et je vais vous citer Romains 12, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je n'ai pas cité le verset premier, c'est pour après. Hier soir, on parlait de renouveler notre intelligence. Comment on peut faire ça? Renouveler son intelligence. Ça se passe dans la prière, dans l'intercession, dans un cœur à cœur avec Jésus. Pourquoi faire ça? Parce qu'on va goûter à son amour, à sa proximité, à son pardon, à son encouragement, à son exhortation. Peut-être il va redresser des choses en nous. Christ pourra nous transformer de progrès en progrès afin qu'on puisse lui ressembler davantage. Afin qu'on puisse le refléter, ici dans l'Église et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, nous sommes des vases de terre, et si les vases de terre gardent le couvercle, eh bien, il n'y a aucune odeur qui sort, c'est évident. Et quand je vois cette femme qui brise le parfum, je me dis, peut-être il y a quelque chose qui doit être brisé en nous. Et ça se passe dans la prière. Seigneur, brise mes résistances. Des fois, je résiste. Au service. Seigneur, brise mes craintes. Oui, j'ai des craintes. Peut-être j'ai besoin de briser mon arrogance. Peut-être que l'argent a tellement de place que, Seigneur, brise cette sécurité parce que je place mon sécurité dans l'argent. Brise mon égocentrisme, mon péché. Seigneur, communique-moi tes sentiments. Les sentiments qui sont les tiens. Ainsi, nous serons capables d'offrir nos vies en sacrifice. Ça se passe dans un cœur en cœur avec Jésus, dans la prière, où il nous donne le vouloir et le faire, la puissance, l'abnégation, l'anéantissement du moi, pour que je puisse être comme cette femme, prêt à offrir ce que j'ai de plus précieux à Jésus. C'est peut-être ma vie, c'est peut-être mon service, c'est peut-être plein de choses. Alors je termine par cette phrase, je vous exhorte frères et sœurs, par les compassions de Dieu, Et du coup, ce verset prend tout un sens. À offrir vos corps, Dieu nous le demande, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Marie a donné ce qu'elle avait de plus précieux. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Que suis-je prêt à faire pour Jésus ? À toi de répondre, mon frère, ma sœur.